Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Vincent Munier a un côté animal. Il n'est jamais aussi à l'aise dans son élément que quand il se trouve à l'affût, en osmose avec les animaux qu'il photographie, près de chez lui dans les Vosges, mais aussi partout dans le monde, au Tibet par exemple, à la recherche de la panthère des neiges, ou sur le continent arctique, avec une découverte jubilatoire et unique, une meute de loups blancs. Enfant de la balle, lancé dans le grand bain à 12 ans par un père naturaliste, précurseur d'une écologie responsable, Vincent Munier est un parfait autodidacte, reconnu mondialement pour ses clichés d'une saisissante beauté. Vincent Munier, un homme discret qui ne parle jamais pour ne rien dire, est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Je voudrais qu'on revienne à la genèse de cette vocation qui est la tienne. T'as 12 ans, t'es aux portes de l'adolescence, et là, ton père te jette dans le grand bain à un moment où tu te retrouves à l'affût, il n'est plus là, et puis tu es finalement seul avec ce qui t'entoure, et notamment des chevreuils. C'est là, véritablement, que ta vocation naît.
Oui, ça peut paraître un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que le déclic a eu lieu à cet endroit-là, dans une forêt pas très loin de la maison, à 2-3 km de chez moi, dans les Vosges. Et j'avais en effet 12 ans, 1988. J'étais habillé tout de camouflage, enfin des filets, un vieil appareil photo que mon père m'avait prêté. Et puis cette rencontre complètement folle pour un gamin de cet âge-là, face à face avec des petits chevreuils qui sont venus, déjà derrière moi, puis devant, et moi tremblant de peur, je ne savais pas ce que c'était comme espèce animale, et j'ai pu faire ma première photo. C'était un peu comme un mirage. C'est ça qui est assez fou dans cette passion, qu'est la photographie animalière, c'est qu'on a l'impression de pas vivre la réalité, quoi. Et l'image permet de figer ça et de s'y replonger. C'est génial.
Est-ce que la photo était belle à l'époque, cette première photo de chevreuil?
Non, mais je l'ai toujours gardée. Hein. Tu sais, c'est une diapositive, bien sûr. C'était des diapos à l'époque, pas de numérique. Et évidemment, elle représente beaucoup de choses pour moi, mais elle est toute floue. Hein. J'étais tremblant de peur. C'était pas une peur, mais plus ou moins de voir un animal sauvage si proche. J'étais tellement bien camouflé que c'était assez émouvant, quoi. C'était assez une vitesse d'obturation un peu lente et qui fait que la photo n'est pas de bonne qualité, mais elle est quand même tout à fait émouvante.
Parle-nous de ton papa, personnage incontournable dans ta vie, qui t'accompagne encore aujourd'hui, une fibre écolo, quelqu'un de responsable, quelqu'un peut-être même d'avant-gardiste. Est-ce que tu dirais encore aujourd'hui que c'est ton inspiration ?
Complètement, parce que parfois les destins de vie c'est des rencontres. Là, moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui ont toujours été... sensible par la beauté du monde vivant, par la nature, par des activités dehors. C'est une chance déjà d'avoir grandi avec une friche et une forêt pas très loin, donc j'étais pas en centre-ville, d'avoir un père qui est passionné de nature et qui a voulu nous transmettre ça à Isabelle et Sylvain, mon frère et ma sœur et moi. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir baigné dans un microcosme qui était l'émerveillement et à côté, sur le pas de notre porte en quelque sorte. Et étant gamin, c'était des balades en forêt, les champignons, du canoë, de l'escalade, des vacances, même s'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. On partait pas chaque année, mais quand on partait, c'était un grand voyage de plusieurs semaines en Écosse pour aller voir les oiseaux marins, les foutebassans, les pétrels, les macaremoines. L'année ou deux ans après, c'était la Pologne pour tenter d'aller voir des traces de loups, d'élans, d'ours. J'avoue que ça, c'est une énorme chance, sans quoi j'aurais eu un parcours évidemment différent.
Tu dis que à cette époque-là, tu as aussi un peu souffert que ton père soit un peu moqué, cette fibre écologique qui était la sienne et qui forcément dénotait à un moment où il y a un peu plus de 20 ans, on parlait pas beaucoup d'écologie.
ce sont un peu mes héros. Hein. Autant nous, en photographie animalière, on est mis en avant parce qu'on fait des belles images, mais je trouve que c'est tellement plus noble d'avoir le courage d'être en première ligne, de combattre, non pas, c'est pas pour eux, c'est ça qui est fou. Ces écologistes qui sont un petit peu parfois moqués, qui le sont toujours moins qu'avant, c'est un combat pour tout le monde, pour les êtres vivants. C'est des gens qui ont compris que tout est lié. Ils étaient la risée un petit peu de ceux qui étaient à l'époque, dans les années 90, à 200% pour le développement économique.
Vincent, tu as repris toi aussi le flambeau aujourd'hui. On ne parle pas de politique dans Vie d'aventure. Néanmoins, j'ai comme envie de te poser cette question-là. Que penses-tu de l'arrivée à la tête de certaines très grandes villes françaises, je pense à Bordeaux, à Lyon et à Marseille notamment, de maires écologistes?
Ah ben moi, je ne peux que m'en réjouir. Hein. C'est vrai que moi, j'ai du mal à suivre tout ce qui est politique, donc c'est vrai que je prends ça avec beaucoup de distance. Mais au niveau des communes, je trouve que là, il y a des choses à faire. Et là, moi, je me réjouis de ce qui se passe. Et je le vois au niveau de certaines communes dans les Vosges ou ailleurs, hein, encore plus dans la Drôme ou dans certains endroits, où là, on est dans du concret. On arrive à faire... À mettre la politique avec des actes, une politique d'action en quelque sorte, ce qui est beaucoup plus difficile à faire au niveau d'une nation, au niveau de l'Europe, encore plus au niveau du monde. Donc là, c'est plutôt chouette, il va se passer les choses, je pense. Les citoyens vont être partie prenante pour essayer de voir les choses différemment, essayer de vivre et de consommer d'une autre manière.
Vincent, on revient à ton histoire. Tu es encore un adolescent et je voudrais que tu reviennes sur cette journée du rattrapage du bac ouais. Où finalement tu décides de prendre la poudre d'escampette, de ne pas aller au rattrapage, ouais. Donc de louper ton bac pour partir en forêt. C'est quand même extraordinaire.
Oui, alors là, moi, je suis pas très fier de parler de ça parce que quand même, je l'ai loupé 3 fois le bac. Et je me dis, mais quelle idée de mettre le bac déjà. Quelle idée de mettre des examens au mois de juin, quoi. C'est là où c'est le printemps, la nature explose. Il faut que les enfants ils soient dehors. Il faudrait passer des examens au mois de novembre-décembre, quoi, quand il fait nuit à 4 heures le soir. Donc là, non, moi, c'était extrêmement compliqué. Et donc, au mois de mai-juin, il y a tout. Il y a les renards, là, il y avait des nichées de faucons pèlerins. C'était juste pas possible. Alors, c'est là où j'ai eu un petit peu de tension entre mon père, qui est professeur de métier, et puis moi, lui, m'a transmis cette passion. Et puis, il voyait bien que j'étais tellement pris et que je faisais rien à l'école. Donc là, il y avait un petit sentiment de culpabilité. C'est un petit peu délicat. Mais voilà, j'ai pris une autre voie. J'ai mis tout ça de côté. Et après, c'était les voyages, c'était le terrain. C'était plusieurs mois en Afrique, plusieurs mois dans les pays de l'Est, après la Scandinavie. Et puis j'ai fait un peu mes armes sur le terrain. Donc, je ne sais pas si c'est très, très bien. Je ne suis pas un très bon exemple, je pense, pour les enfants s'ils nous écoutent. Mais il m'était impossible de rester sur les bancs de l'école, quoi. Ça, c'est certain.
Néanmoins, ça te ferme quand même quelques portes parce que, au début, quand même, ton envie, c'était de devenir forestier. Et pour être forestier, il faut avoir le bac.
Absolument. C'est vrai qu'il y a eu des périodes assez compliquées parce que, en effet, des incertitudes, les parents qui n'étaient pas non plus très fiers de mon parcours et moi qui ne pensais qu'à voyager. Donc, c'était un peu compliqué. Des petits boulots de ci, de là pour me payer les Kodachrome 200 à l'époque. On remplissait les boîtiers de ces. Il n'y avait que 36 vues, évidemment, et ça coûtait relativement cher.
On était encore à l'époque de l'argentique.
Absolument, l'argentique. Et j'avais le résultat de mes photos 2 ou 3 semaines après. J'envoyais mes Kodachrome en Suisse à l'époque et j'attendais le facteur avec impatience pour voir si ma photo était nette ou pas. Et c'était quand même assez grisant. Donc après, c'était un regret, mais je pense qu'après, mon chemin aurait été tout autre, hein, probablement. Mais là, ça a été des petits boulots d'ici et là, des maçons. J'ai fait quoi ? J'ai travaillé dans la presse quotidienne régionale à faire des piges. Après, j'ai réussi à avoir le statut de ma petite carte de presse en tant que photographe. Moi qui étais extrêmement timide, qui n'osais pas, parce que je passais mon temps en forêt, toujours caché à observer. Ça a été une bonne école d'essayer d'oser, de me mettre en avant. C'était pas simple. Et je pense que ça m'a servi après pour essayer de montrer mes photos, essayer de vendre un peu mes images, parce qu'il fallait que j'en vive. Et les cinq premières années ont été extrêmement compliquées.
Vincent, quand as-tu compris que tu allais en faire ton métier ?
Alors, pas tout de suite. Tout s'est fait vraiment de manière progressive. Parce qu'à l'époque, c'est pas si loin, mais il y a un peu plus de 20 ans, le métier de photographe animalier n'était pas véritablement reconnu. Il y en avait très peu en France qui en vivaient. On avait des têtes d'affiches qui étaient plutôt des photographes américains. Donc Jim Brandenburg, Art Wolf, tous des grands qui bossaient pour National Geographic. Et c'est eux qui vendaient les reportages à Géo ou à Terre Sauvage en France. Donc, c'était pas évident. Mais ça a bien changé, hein, ce qui est plutôt chouette. Et moi, ça s'est fait tout doucement. Tout doucement, des concours que j'ai gagnés ici et là, à la BBC, c'était la BBC Wildlife Photographer of the Year. Donc chaque année, le Muséum de Londres organise un concours photo, un des plus prestigieux. Et moi qui parlais à peine...
Et là, tu gagnes trois fois quand même, hein, en 2000, 2001 et 2002.
Voilà, c'est ça. Je parlais à peine anglais, donc j'envoyais mes diapositives et puis je recevais des fax en me disant « j'ai gagné » après une deuxième année, une troisième année. Et j'ai eu plusieurs prix et j'avoue que là, c'était un coup de projecteur, quoi. Bien évidemment, ça restait que dans la niche de la photographie animalière, mais je commençais à avoir un nom, un petit Français qui est tout jeune et qui commence à avoir pas mal de belles images avec de l'ambiance. Je crois que ce qui m'a un peu caractérisé assez tôt, c'est de mettre... de ne pas se dissocier l'animal de son milieu. J'adore recréer des lumières fantastiques, un beau milieu. Enfin, recréer, non, mais je fais tout pour essayer d'avoir tous les ingrédients, quoi. Le beau paysage, la belle lumière, et une petite note animale là-dedans qui respire. Et chacun se fait sa propre histoire de cette photo. Je trouve ça assez magique. Et ça, ça a assez plu. Bon, évidemment, je suis pas le... J'ai rien inventé, hein. Je me suis aussi beaucoup inspiré d'autres auteurs, des Finlandais, des Japonais beaucoup, quelques photographes américains aussi qui avaient cet esprit de s'échapper de la photo un peu style agence photo, très photo d'illustration où on voit tout le détail de l'animal, vraiment pour vendre quoi en quelque sorte, mais être plus dans une photo de ressenti. Des choses très, très furtives dans les jumelles, des ombres, des silhouettes qui passent, qui reviennent, ce côté très fantôme qu'on a quand on est à l'affût. Et c'est ça, essayer de retranscrire l'émotion forte. Et ça, très tôt, je l'ai eu grâce à mon père, je pense, par rapport à ses compétences naturalistes, sûrement. Et puis après, moi, j'étais chercher un peu partout mes inspirations.
Vincent Munier, ce qui est important aussi dans Vie d'aventure, c'est de comprendre ton quotidien, de partir avec toi justement à l'affût. C'est le sens de l'affût, tu crois, qui te permet aujourd'hui de capter des ambiances aussi naturelles, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves ?
Difficile de répondre à ça, mais c'est vrai que comme j'ai commencé très tôt, très jeune, observer, c'est-à-dire ne pas être toujours caché, observer. Ça peut même être assez pénible avec les gens qui m'accompagnent parce que je suis sans arrêt en train de scruter partout, d'écouter, de sentir, de voir la moindre trace. Donc, j'ai grandi avec cet état d'esprit, avec cette philosophie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais quand je suis dans un endroit... encore plus quand c'est sauvage, je redeviens animal. J'ai probablement une technique de plus d'un félin, que ce soit d'une panthère, et d'essayer d'être le plus mimétique, d'être le plus discret, le plus proche de l'animal, et de m'effacer, quoi. Et ça, c'est toujours été mon leitmotiv. Et je pense que ça aide, évidemment, que ce soit au Tibet, en Arctique, ou au fin fond de l'Afrique, ça aide à figer des instants un peu rares, un peu privilégiés de rencontres avec les bestioles, évidemment. Ouais, c'est sûr. Mais tout se fait naturellement. Il n'y a pas d'école. C'est l'école, c'est le terrain, c'est le terrain. Il faut être dehors, il faut observer, il faut passer un temps fou, les yeux dans les jumelles, pas uniquement l'appareil photo. C'est ce qui m'agace de temps en temps avec la photographie animalière qui prend de l'essor, et tant mieux, c'est génial. Mais c'est de pas penser que jusqu'à la photo à vite, très vite publiée sur les réseaux sociaux, mais c'est se nourrir de tout ce qu'il y a autour de l'animal. C'est ça qui est juste génial. c'est d'avoir tous les ports ouverts pour que la nature vienne à nous, qu'on se sente animal. Et moi, j'ai besoin de temps quand je suis sur le terrain et pour apprendre à lire le paysage, à lire les lumières du lieu, le relief, les mouvements des animaux, avant de tenter un affût, quoi. Et après, en effet, l'affût, une fois qu'il est bien mûri, qu'on connaît bien les allées et venues des animaux, que les conditions de lumière sont bonnes, que le vent est bon, et ben il sera là. Et là, ben, on aura peut-être la chance, on optimise les chances pour avoir l'image.
Vincent, comment fais-tu pour te confondre le plus possible dans la nature, pour faire corps avec elle et pour être finalement dans une relation très égalitaire avec l'animal que tu souhaites photographier ?
C'est dur de répondre à ce genre de questions parce que tout se fait tellement naturellement. Mais la photographie, on s'efface tout le temps. Moi, je n'ai pas véritablement de recettes ou de réponses. Encore une fois, tout se fait naturellement. Et quand, en effet, je me balade, quand je marche dans un endroit, j'ai l'impression que je ne suis pas chez moi, donc je suis extrêmement discret. Et j'essaye de me fondre et je longe les lisières et je longe les barres rocheuses. Tout se fait relativement naturellement. Il n'y a pas d'école de pisteur. Je crois qu'il faut juste être sur le terrain et passer du temps. Mais encore une fois, moi je dis ça, mais je n'excelle pas. Je subis encore énormément d'échecs encore avec certaines espèces. Je me fais balader, quoi. C'est ça qui est fou dans cette. Ce qui est peut-être un peu vexant parfois. C'est qu'on se sent justement pas suffisamment animal et tellement les gros lourdeaux de la nature, quoi. Quand je suis en montagne à 4 ou 5 000 mètres d'altitude, on a beaucoup de mal à se déplacer. Et quand on voit les bouquetins, les barales ou les panthères évoluer dans ce genre de milieu, j'enrage, je m'en veux. Donc moi, j'essaye toujours de limiter un peu ce fossé qu'il y a entre l'homme et puis la nature, parce qu'on s'est énormément échappé de tout ça. Donc moi, j'essaye de retisser un peu ces liens, d'essayer de ne pas m'échapper de tout ça, de ma nature qui est au plus profond de moi, finalement.
C'est étonnant de t'entendre parce que parfois, ton volume sonore baisse comme si tu étais dans la nature face aux animaux.
Ah,
tu
oui.
dis de manière très juste, on n'est pas chez nous avec les animaux. Ça fait du bien de se sentir faible.
Ça, c'est vrai, ça, c'est certain. Et je crois qu'on manque terriblement de ça. Je crois que quand on est face à un ours, quand on est face à un jaguar en pleine forêt du Pérou, toutes ces angoisses, ces certaines peurs, en quelque sorte, hein, moi, j'ai quand même relativement peur, souvent, même si j'essaye de les apprivoiser, même en étant souvent sur place, c'est des bonnes leçons. On en a besoin. Hein, on en a besoin parce qu'on est quand même un stade, et puis là on le voit avec tout ce qui se passe, où on manque énormément d'humilité par rapport à la nature, par rapport au sauvage. Et on a toujours ces mots qui me font un peu mal, moi, ce côté gérer, maîtriser, canaliser, enfin voilà, tout ça, ça m'agace au plus haut point. Moi, je suis extrêmement affecté par toutes ces barrières qu'on a entre les autres êtres vivants et nous. Et moi, je continue à employer le mot nature, mais il y a un philosophe qui est assez chouette que je suis en train de lire en ce moment, Philippe Descola, qui voudrait même plus parler de nature, parce que la nature, en fait, ça veut trop rien dire. La nature n'existe pas, en quelque sorte. C'est l'homme qui a créé ce mot pour nous en dissocier, pour essayer de s'élever presque par rapport aux sauvages et aux autres êtres vivants. Alors que non, pour faire opposer la nature et la culture. Et ça, c'est assez agaçant. Et je crois que là, on en voit les dérives de cette espèce d'hégémonie d'une seule espèce sur la planète. Moi, ça m'affecte terriblement. Donc, c'est pour ça que je me sens tellement bien avec même ces gros animaux, même si je me sens proie, quoi. J'en ai vraiment besoin. J'en ai besoin en me disant respect, respect.
Alors justement, Vincent, tu parles de la proie que tu peux être pour certains animaux. Revenons sur un moment où t'en menais pas large. On est au Kamchatka, dans l'extrême-orient russe, et là, eh bien, tu as une confrontation directe avec un ours. Raconte-nous comment tu as vécu cette situation terrible au départ.
Oui, au Kamchatka, l'ours, une fois, m'a... m'a tenu prisonnier en quelque sorte pendant facilement une bonne demi-heure, une heure. J'ai même plus de notion, on n'a même plus de notion de temps quand ça arrive. Et là, alors, ça pouvait être dû à un manque de bouffe ou à un problème de territoire, mais en l'occurrence, c'était dans le parc de Kronotsky, dans une toundra, il y avait très peu de baies, donc c'est vrai que c'est plus la probabilité du manque de nourriture. Et là, il m'a tenu en échec pendant un moment, et il a fallu que je sorte un firebanger, c'est un gros fumigène, que je lui mette sur la truffe en hurlant et en tapant très fort des pieds pour voir son cul dans la fumée. C'est la seule fois où il me faisait plus face, quoi, son cul. Et là, moi, j'ai couru dans le sens inverse en laissant tout mon matériel en plan. Et donc, j'ai longé une rivière en me disant, il était tellement sûr de lui qu'il va retrouver ma trace, il va revenir. Et j'ai longé la rivière pour éviter qu'il sente mes traces. Et ça, c'était assez fort. Et c'était un moment où j'ai passé beaucoup de temps là-bas au Kamchatka, où c'est le paradis des ours. Et j'étais peut-être un peu trop serein parce que j'en avais croisé énormément. Et j'étais plutôt cool parce que...
Oui, mais t'avais pas d'armes en plus à ce moment-là.
Là, j'avais pas d'armes. Non, j'avais que ce fumigène. Et puis, les jours précédents, je me baladais sans ça dans la poche. Donc là, c'est assez rigolo. Parfois, le destin est fragile.
T'as eu peur de mourir à ce moment-là?
Je ne voyais plus d'issue. Hein. J'avais déployé toutes mes affaires. J'avais fait un cercle autour de moi. Je lui parlais. Hein, mais lui continuait de rouler les épaules dans les myrtilles, taper dans les pins. Et c'était une grosse frayeur. Ouais, là, bien, évidemment, je ne voyais pas comment m'en sortir. Sans armes, sans personne qui appelait. C'était lui et moi. C'était un face-à-face où... Et ça arrive. Alors tout ça pour dire, il faut pas mettre tout sur l'ours. L'ours qui est agressif, ça m'est arrivé une fois sur plusieurs centaines de rencontres avec l'animal. C'était soit un ours qui était territorial ou un peu déstabilisé, mais ça montre que ce genre de grands fauves sont bien plus forts que nous, quoi. Ça fait du bien.
Je voudrais qu'on revienne maintenant sur une des rencontres qui à coup sûr a marqué ta vie. On est dans l'Arctique canadien en 2013. La température est effrayante, moins 47 degrés. Et là, tu es sur ton camp et tu rêves de retrouver des loups blancs. Et d'un seul coup, les images sont saisissantes. Je vous invite à aller regarder les films aussi de Vincent Munier. Une meute de 9 loups s'approche de toi. Rien qu'en t'en parlant, j'ai les poils qui se dressent sur la peau.
C'était, je pense, le plus grand moment de ma vie de photographe naturaliste, c'est certain, parce que c'est quand même une quête de plusieurs années. Ça faisait 7-8 ans que j'allais en Arctique. J'ai commencé justement dans la Fulon Sanctuary, où j'avais appris la présence de ces loups blancs. Après, sur l'île de Banks, qui est au nord de l'Alaska, où il y a une grosse population de bœufs musqués. Des bœufs musqués, c'est aussi des animaux qui vivent en Arctique, qui sont la principale proie des loups arctiques. Et puis, j'y allais parfois un mois, et je voyais que des traces, rien. Souvent au mois de février-mars, au moment où il fait encore bien froid, où il y a de la neige, où je peux tirer un traîneau, sans quoi c'est juste impossible en été, et où je peux tirer mes 120 kilos de vivres et puis rester en autonomie pendant un mois. Donc l'île de Banks, il m'est arrivé de voir une fois deux loups, mais c'était vraiment comme une vision de fantôme, et puis après plus rien, et tout s'est fait vraiment encore une fois tout doucement, progressivement. J'ai réussi à acquérir une expérience de vivre dans ces genres de conditions. Et pour aller jusque l'île d'Ellesmere, alors ça c'est l'île la plus haute dans le Nunavut, donc tout au nord du Canada. Après cette île, il n'y a plus rien, c'est le pôle nord. Et il y a encore des loups, quoi. On est sur les loups du bout du monde. Et ça, c'était un rêve. Je voulais voir ce qu'avait vu Jim Brandenburg, un ami qui avait vu ça il y a 25-30 ans, et de voir ces fameux fantômes de l'Arctique. Et donc là, le petit Twin Otter, c'est un avion qui atterrit sur la glace, qui me dépose avec tout mon attirail, mes deux traîneaux. Et les 8 premiers jours, il faisait très froid. J'avais beaucoup de mal à gérer ces moins 40, moins 50. Et puis rien, des traces. Une fois, j'ai entendu chanter les loups derrière une colline. Alors, on ne sait jamais si c'est la réalité ou pas, tellement on est quand même dans parfois dans des conditions un peu étranges où on voit des mirages, on entend des... Donc, et là, je les loupe, rien. Rien. Et jusqu'à ce 8e jour où ma tente était prête, j'étais prête à me reposer, j'avais mis mon panneau solaire pour recharger mes batteries. Un dernier coup de jumelle avant d'aller dans le duvet, et puis là je vois en effet ces 9 petits points jaunes au loin. Donc toujours l'angoisse d'un ours polaire, mais là je me dis 9, c'est pas possible, ça peut être que les loups. Et ce qui était assez magique, j'avais un 500 mm qui était sur le trépied, c'est que j'ai pu filmer en effet c'est l'arrivée, la charge entre guillemets, de cette meute de loups vers moi. Ils devaient voir un point noir sur la banquise, ils devaient probablement au départ imaginer un bœuf musqué solitaire, donc une
parce qu'ils n'étaient pas farouches du tout, hein, Vincent.
Ah non, pas du tout.
Ils n'avaient peut-être jamais vu l'homme de leur vie.
Voilà, on est à de telles latitudes que là, il n'y a plus de présence humaine. Le dernier village, c'est Grisfjord. Et là, je suis à 400 km au nord de ce dernier village inuit. Donc là, je suis allé si haut pour voir justement des loups qui n'avaient quasiment jamais vu l'homme. C'est dur d'en être sûr, mais quasiment pas, et qui n'ont plus peur, et qui ne sont plus chassés ni traqués. Donc c'était le but, quoi. Et tout en sachant qu'ils ont un territoire qui est tellement vaste, ils sont capables de marcher pendant 50 km en une nuit, et c'est tellement aléatoire. Enfin voilà, et donc là, il y a eu ce moment complètement fou. Ils sont venus vers moi en courant, l'espace de quelques minutes, ils étaient tous autour de ma tente. Les 9, j'ai pu filmer cette charge, et puis après c'était plus de la curiosité. Ils ont bien vu que c'était un bipède, une drôle de bestiole. Ils m'ont testé. Les plus jeunes, hein, c'est les louvards. Des louvards d'un an étaient les plus téméraires. Ils venaient, ils se glissaient. Quand j'étais à plat ventre, j'étais souvent à plat ventre.
Ils te mordillaient un petit peu. Hein.
Pour être au même niveau qu'eux, ils me mordillaient. Ouais, ils me tiraient sur le pantalon derrière moi. Donc là, je me remettais en position verticale pour leur montrer quand même que j'étais un homme en bonne santé. Parce qu'ils me testaient. C'était plus un jeu, mais qui peut très vite après, ils auraient pu faire leur métier de loup, et si on ne sait jamais, le loup n'attaque pas l'homme, ça se voit quasiment jamais. Mais un homme fatigué, faible, qui est pourquoi pas, c'est pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, non, c'était de la curiosité, quoi. Après ces tests, ils ont tiré un peu sur les dragons de ma tante, ils sont restés autour de moi, ils m'ont encerclé, la lumière était magnifique. J'ai fait 2000 photos en même pas une heure, alors qu'après j'en ai plus fait du tout, hein, parce que c'est le genre d'endroit où après on peut marcher pendant 8-10 jours, on voit pas un animal, quoi. Donc c'était un moment complètement irréel, magique, et une fois de plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut s'y replonger, et qu'on peut le partager, et qu'on se rend compte que c'était pas un mirage, quoi, que ouais. c'était la réalité, quoi. Surtout comme je vous le disais, quand il fait moins 45, on a quand même des troubles de vision, on est parfois dans des conditions un peu particulières, quoi. On peut marcher en dormant quasiment, en étant... C'est compliqué le froid quand tu es en autonomie, sans rien, sans groupe électrogène ou sans rien, il n'y a que ton corps pour te réchauffer, donc c'est compliqué, quoi. C'était une rencontre unique.
Vincent, à un moment, si je ne m'abuse, tu joues un peu à l'homme blessé pour les inciter à revenir vers toi, pour leur faire presque croire que tu peux être une proie intéressante pour toi, continuer à les observer et à les photographier. C'est assez hallucinant de penser à ça.
J'étais tellement déçu. Après, j'ai fait toute ma série de photos et je les voyais repartir en file indienne, comme font souvent les loups, les pas dans leurs pas. Et je me suis dit, allez, c'est mort, quoi. Je vais plus les revoir pendant les 3 semaines qui me restent. Et là, j'étais extrêmement triste parce qu'ils avaient bien vu qu'ils n'avaient rien à tirer de moi et qu'ils allaient partir et continuer leur maraude. Et donc là, oui, en effet, je les ai suivis en chaussons de tente et j'ai fait l'homme blessé. Ouais. Et c'était radical. Hein. Ils sont stoppés net, ils sont revenus vers moi et j'ai pu refaire à nouveau des photos.
Oh, c'est dingue. Ouais. Qu'est-ce qui te procure le plus d'émotion, Vincent ? Est-ce que c'est la rencontre avec l'animal ? Est-ce que c'est la rareté de l'échange potentiel, et on vient de le voir avec ces loups blancs ? Ou est-ce que c'est la qualité du cliché ?
Ah, c'est compliqué. C'est pas la qualité du cliché, ça c'est certain. Moi, je crois que c'est une activité qui où je joue avec plusieurs sur plusieurs tableaux. J'aime bien mixer un peu le dépassement de soi, évidemment l'aventure, l'inconnu, une quête naturaliste, c'est indéniable, parce que c'est vrai que ces oiseaux, ces mammifères, ces animaux me fascinent, c'est des rêves de gamin que j'essaye d'assouvir, en gros. Hein. Et puis après seulement vient la photographie, vraiment, je crois. Et je peux partir en expédition avec une paire de jumelles. Souvent, je dis que je regrette de ne pas être un dessinateur pour pouvoir dessiner. Ce serait quand même bien plus léger que d'avoir un gros trépied avec un 600 ou un 800 mm et trois boîtiers et des batteries à charger. Enfin, voilà. Donc ça peut vite m'handicaper, le côté photographe ou cinéaste. Mais je pense que c'est un tout. Mais m'échapper de mon confort et puis et comme je disais au début de se laisser imprégner par les lieux, de se laisser imprégner par l'ambiance partout, avoir tous ses sens en éveil et se laisser complètement submerger par là où tu es, quoi. Essayer de et après je marche énormément à l'instinct. J'aime pas quand c'est trop simple, j'aime bien quand il y a tout un parcours, tout un chemin, des échecs sur échecs, finalement. Je ne suis pas maso, hein, mais je trouve que c'est plus méritant. Et c'est surtout que une fois que t'es face à cette bestiole que t'as tant rêvé et qui te hante en permanence, c'est indescriptible, quoi. L'émotion est tellement forte. Parfois, on n'est pas obligé d'aller sur des espèces très, un peu sensationnelles, mais qu'on peut vraiment s'éclater avec des animaux près de chez nous. Mmh. Je viens de découvrir, pas très loin de ma ferme où j'habite dans les Vosges, un couple de grand-ducs. C'est un grand rapace. Et je ne l'avais jamais observé chez moi. Et c'est juste fabuleux, quoi, de passer des nuits au clair de lune, les observer en train de chasser les hérissons ou des lièvres. C'est extraordinaire.
Tu me disais il y a un instant que c'eût été peut-être plus facile pour toi d'être dessinateur et de dessiner les émotions que tu ressentais lors de tes voyages. Il y en a un qui t'a accompagné, c'est Sylvain Tesson, l'écrivain, aventurier lui aussi. Et il ne dessine pas, mais il écrit. Mmh. Et il t'a accompagné sur le haut plateau du Changtang au Tibet. Vous êtes parti, toi, ta compagne Marie, et lui, à la rencontre, à la recherche d'un animal très très rare, la panthère des neiges. Et ça a donné lieu évidemment à ce livre merveilleux de Sylvain Tesson, La panthère des neiges, primé du prix Renaudot. Mmh. D'abord, avant de revenir sur l'ambiance sur place, il reste combien de panthères des neiges dans cette zone du Tibet ?
La population mondiale, elle est estimée entre 5 ou 6 000 individus, donc ce qui paraît peu, mais c'est probablement plus, parce qu'en Chine, la population est quand même elle est difficile à compter. Ouais. Donc je ne peux pas dire. Mais une chose est sûre, c'est quand même une espèce, en effet, encore une fois, qui est assez mythique, évidemment, parce qu'elle a été photographiée assez tard par George Schaller dans les années 70. C'était le premier, un biologiste américain, qui était le premier à la photographier dans le Chitral, dans le Pakistan. Et puis après, on en voyait énormément des photos, mais c'était des photos de panthères prises en zoo, mais des photos de panthères prises en nature, c'était quand même assez dur. Ça restait un animal assez fantomatique. Et Sylvain, moi, je l'ai invité une fois que j'étais quasiment sûr qu'on puisse voir la panthère, quoi. Il y avait un petit canyon je l'avais observé à plusieurs reprises. Je me suis dit, là, il faut qu'on revienne absolument, et j'aurais envie d'emmener cet écrivain si talentueux et qu'il arrive à faire un peu, comment dire, une passerelle qui en parle encore à un spectre bien plus large qu'est le mien.
Ça a dû être quelque chose d'extraordinaire, parce que toi qui es habitué aux aventures solitaires, là, vous vous retrouvez d'un seul coup à trois, avec, en plus, quelqu'un qui n'est pas aguerri à ce type d'aventure, même si Sylvain Tesson, à travers ses expériences autour du lac Baïkal ou sur la route de Napoléon du côté de Bérézina, a vécu des choses très intenses et dans des conditions difficiles. Néanmoins, il n'a pas tes réflexes, il n'a pas cette habitude d'être à l'affût, surtout par rapport à des animaux aussi compliqués à détecter, comme la panthère des neiges.
Là, on était un peu inquiet en se disant, est-ce qu'il arrivera à tenir, tout en me disant, c'est quand même un voyage où où ben moi je vais un peu ronger mes freins, où j'en ferai un peu moins que quand je suis seul. Et finalement, ça s'est bien passé. Pourtant, bon, il portait peu, hein, suite à son accident. Il pouvait porter 10 à 15 kilos, pas plus, alors que nous, nos sacs en font plus de 35. Mais tout s'est vraiment bien passé. C'était un véritable plaisir. Il était comme un gamin, les yeux toujours écarquillés, toujours à l'écoute. Il apprenait des choses, finalement, parce que même si ces endroits, il les connaît, il avait traversé une partie du plateau du Changtang, et il les connaissait, c'est un gars de terrain, évidemment. Mais les affûts sont bougés dans une grotte, quand il fait moins 30, c'était moins sûr. Et il a été vaillant, vraiment. C'était que du bonheur.
Il montre, Sylvain Tesson, quand même, à travers ses mots, cette forme d'impatience de l'humain. Par rapport à vous qui pouvez rester avec Marie des heures figées pour attendre cette panthère des neiges. Et cette panthère, comme par magie, mais est-ce qu'on peut parler de magie ? Eh bien, elle arrive face à vous et vous la voyez à plusieurs reprises et tu as la possibilité de la photographier.
Ouais, c'était assez fou, même si c'était un canyon où je savais qu'elle était présente, mais encore une fois, rien n'était garanti. Et tout s'est vraiment super bien passé. On a eu une chance incroyable. Enfin, une chance, évidemment, qu'on a mis tout de notre côté, mais tous les atouts de notre côté. Mais c'est à la toute fin du voyage, hein, deux, trois jours avant de partir, où en plus la neige arrive, les averses de neige, une grotte. Marie, en montant à l'affût à cette grotte, trouve une carcasse de yak, dit tiens, c'est étrange, il y a un yak mort, je vais voir. Et le yak venait de se faire tuer par la panthère. On a dû la déranger pendant notre ascension, un truc de fou. Et c'était à 80, 100 mètres de là où on imaginait faire notre affût dans une grotte. Et donc là, on s'est quand même mis dans cet affût. La nuit passe, on entend le grand-duc et au petit jour, je m'extirpe du duvet. Je prends mes jumelles et doucement je rampe et je regarde sur la proie, donc sur ce fameux yak, et la panthère était là, quoi. Donc je réveille tout le monde et tout doucement, ben on peut filmer la panthère qui est en train de se délecter sur son yak. Et c'était fabuleux. Et ça, vraiment, et là, on est en train de monter un film. La Marie a fait un film parce qu'au départ, finalement, Sylvain devait venir pour faire quelques textes de mon livre photo, mais pas du tout en faire un récit comme il a pu le faire chez Gallimard. Donc, le but premier, c'était avoir ces textes dans mon livre et puis de faire un film que Marie réalisait. Et c'est rigolo. Donc, lui a sorti son livre avant. Donc là, le film, on est en train de le monter et on voit tout ça, quoi. Ce qui est chouette dans c'est qu'il n'y a rien qui est mis en scène. Et on va pouvoir vous montrer un peu tout ce qu'on a pu vivre et jusqu'à ce moment de grâce un peu à la toute fin du voyage avec ce face-à-face avec cette panthère, cette vieille panthère toute cagneuse là. C'était magnifique, quoi, dans la neige.
Vincent, raconte-nous ce qui se passe dans ton organisme quand tu vois pour la première fois cette panthère, parce que évidemment tu dois avoir envie de hurler, mais c'est impossible. Comment tu réagis physiologiquement ?
Non, bah j'ai quand même hurlé de joie la première fois, mais pas tout de suite évidemment, mais surtout quand c'est des approches qui réussissent, parce que ce sont des animaux qui nous voient toujours avant qu'on ne les voit. C'est ça qui est le plus terrible. Parce qu'encore une fois, on n'est pas chez nous, mais on est chez eux. C'est leur royaume, ils règnent. Et ils voient tout. C'est une panthère, elle dort énormément, mais sinon elle est à l'affût, elle est posée sur son rocher, elle observe tout. Les allées venues de ses proies, elle règne sur son domaine. C'est quand même assez fabuleux. Et puis nous, on est des intrus là qui arrivons, les gros ballots, on se balade là-dedans et tout le monde se barre. Donc il faut être vraiment caché. Et le but, c'est d'essayer de trouver un affût pour essayer d'être panthère à sa place. C'est-à-dire que nous, on la détecte avant qu'elle nous voit. Et quand ça marche, et là, en l'occurrence, c'était ça. La première fois, j'étais avec un ami qui m'avait suivi en expédition pendant un mois là-bas, sur le plateau du Tibet. Et on avait trouvé une trace fraîche dans la neige de panthère, toute fraîche. On voyait encore ses coussinets extrêmement bien marqués. Et on l'allonge, on la suit. Je fais rarement ça, mais là, je me suis dit, allez, on tente, on suit. On la suit, à un moment, il y a une grosse barre rocheuse, plus rien. Elle s'échappe, elle me dit, bon, il y a une grotte pas très loin, je dis, on va attendre un petit peu. Et j'entends le cri d'un grand corbeau. Je dis, étrange, grands corbeaux qui appellent. Souvent, ils sont en lien avec les grands prédateurs. Ils suivent finalement les loups, les ours ou les panthères, parce que souvent, ils peuvent se délecter un peu des restes de leur proie. Donc, j'entends croiser ces grands corbeaux. Je dis, ah, on va attendre encore. On attend. Et à un moment, changement de temps. Le vent était plutôt ensoleillé. Et là, le vent se lève, les nuages arrivent. Et ça, j'ai assez remarqué. Donc, elle devait siester au soleil. Derrière un rocher, on ne la voyait pas. Changement de temps. Et là, elle a bougé. Et une vision assez magique, c'est que ce qui est quand même assez rare, c'est que je jumelle énormément. C'est-à-dire, jumeler, c'est que je balaye en permanence tous les rochers, partout pour essayer de tout bien intégrer et voir s'il y en a un qui est différent d'une autre fois. Et là, et dans mes oculaires de la jumelle, d'un coup, comme une entrée de champ dans les films de la BBC, si tu veux, t'as la panthère qui passe. Extraordinaire, de la gauche vers la droite. Ah ouais. Donc là, bah, évidemment que t'as le poil et tu te dis, mais c'est juste fabuleux. Et là, t'es fier de toi parce qu'elle te voit pas. Elle passe, il y avait le vent qui venait souffler un petit peu quelques bourrasques de neige. Et elle passe, elle ne te voit pas. Et ça, alors là, t'es pétri, si tu veux. Tu ne sais pas si tu veux te nourrir de cette scène qui est si forte ou la photographier et puis reprendre le télé et puis le téléobjectif et faire des images. Et là, souvent, il se passe plusieurs secondes où tu savoures et tu ne prends pas la photo, mais tu l'as pour toi, quoi. Et après, j'ai fait quelques images et j'ai vu cette panthère qui a continué. Elle a changé de barre, elle est allée se mettre à l'abri parce que la tempête se levait. Mais ça, c'était un moment, c'était ma première panthère, quoi.
Quel animal tu pourrais être, Vincent ?
Ouais, j'aimerais bien voler, évidemment. J'aimerais bien voler. Je pense que j'aurais bien aimé être un animal, un oiseau migrateur. Souvent, je dis que j'aurais aimé être une sterne arctique parce qu'elle passe d'un pôle à l'autre. Moi qui aime aussi bien l'Antarctique que l'Arctique. Et je trouve ça toujours assez fou que des petits êtres comme ça de plumes soient capables de faire des milliers de kilomètres, de retrouver leur nid à tel endroit. Moi, je suis toujours fasciné par ça. Donc, je pense à un oiseau migrateur. Ouais.
Quand tu parles d'une sterne, hein, c'est une sorte de petite mouette, hein, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes.
Voilà, c'est comme une petite mouette qui, voilà, absolument, qui se fait pas loin de 7000 kilomètres, ouais, chaque année.
Quel animal tu rêves encore aujourd'hui de photographier que tu n'as jamais réussi à capter dans ton objectif ?
Ouais, il y en a beaucoup. Souvent, je parle de la panthère de l'amour. C'est un félin qui vit le long du fleuve de l'amour, dans l'Oussouri. Donc, on est au fin fond de la Sibérie orientale, dans le pays de Derzoutsala, pour ceux qui connaissent. C'est un livre qui m'a beaucoup suivi, qui m'a beaucoup plu. C'est cette taïga russe. Derzoutsala était un trappeur gold qui a aidé un géographe envoyé par le tsar dans les années 1870-1880 pour aller cartographier ces terres inconnues du fin fond de l'extrême-orient russe. Et là, il y a la panthère de l'amour, il y a le tigre de Sibérie. Donc ça, c'est sûr, c'est des endroits qui me font rêver. Ils sont emblématiques de ces forêts à perte de vue et puis du sauvage, vraiment. Et voilà, donc ça, c'est, oui, mais évidemment, ça, c'est un de mes rêves. Je ne sais pas si j'arriverai à l'assouvir, parce que des fois, c'est bien de rester avec nos rêves. Quand tu es photographe animalier et puis que tu es assez exigeant dans ce que tu veux montrer, c'est que bah, jamais tu arrives véritablement à la photo parfaite, quoi. Tu aimerais bien... ouais, moi, je suis un fan de l'art minimaliste et de des choses extrêmement épurées, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de mettre ça en œuvre. Et donc ça, c'est beaucoup de frustration pour moi et mon entourage, d'être insatisfait en permanence.
J'ai envie de te poser une question, Vincent, sur ton avenir. Tu as photographié des animaux dans le monde entier, tu les as filmés aussi. Et pourquoi pas un jour filmer l'animal que tu connais peut-être le mieux, à savoir l'homme ? Et pourquoi pas dans les zones les plus reculées, là où les hommes ne vivent pas comme on vit nous et sont peut-être plus proches des animaux ? Je pense notamment à ces peuplades des îles Andaman au large de l'Inde.
Pourquoi pas ? C'est vrai que j'ai eu des moments tellement riches avec certains nomades ou certaines tribus que j'ai pu rencontrer dans mes voyages. Que oui, évidemment. Mais Mais encore une fois, je ne sais pas, j'ai du mal à me projeter. Hein. Moi, j'ai vraiment une démarche, je le dis souvent, une démarche d'amateur. Amateur, c'est le mot amour, je fais tout ça par amour et il n'y a rien de calculé. Et c'est vrai que c'est même dur de dire, c'est mon métier et de vivre de ça, des fois j'ai un peu honte. Parce que finalement, c'est juste un métier de passionné, d'un grand amoureux de la nature. Et donc là... je ne sais pas, l'avenir, je ne sais pas comment ça va. Est-ce que ce sera plus les hommes que les animaux? Je ne peux pas. J'ai passé beaucoup de temps avec les évennes, j'ai passé une partie d'un hiver avec eux, c'était extraordinaire. Ils vivaient de leur reine. Ils avaient un troupeau de 2000 reines dans la toundra et c'était génial de les suivre. Et c'est vrai que c'était des bonnes leçons de voir à quel point leur empreinte écologique était quasiment inexistante. Il n'y avait rien, quoi. C'était extraordinaire. Donc pourquoi pas?
Est-ce que tu as envie d'être, dans les années à venir, peut-être encore plus militant que tu ne l'es pour la préservation du monde animal et pour un respect plus important dans notre monde de l'écologie ?
Oui, je pense que je le serai un peu plus, même si je sais où sont mes compétences. Et mes compétences, c'est de montrer la beauté du monde, essayer de susciter un peu cet émerveillement, essayer de partager tout ça. C'est là où je suis plutôt bon. Mais après, dans le militantisme, dans le combat écologique, je suis pas certain d'être assez compétent. Mais je vais continuer de le faire de manière indirecte. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont sur le front, qui sont en première ligne et qui mettent leur vie en péril pour protéger le vivant, quoi. Ça, moi, j'ai beaucoup de respect. C'est compliqué, hein. Tu sais, j'ai grandi avec un père engagé et c'était dur psychologiquement parce que on est toujours dans des combats qui sont presque impossible à gagner, quoi, au niveau de l'écologie. C'est toujours l'économie sur l'écologie. Ça a toujours été. Donc, tu peux vite sombrer dans une certaine déprime ou tu peux vite te rendre malade de ce qu'on peut faire. Alors, il faut le faire différemment, je crois. Moi, c'est la photo et le contact avec le sauvage qui me tient. Je serai plus militant tout en me faisant beaucoup de bien avec le sauvage.
J'ai lu que tu souhaitais aussi, avec ce qu'on vit en ce moment, peut-être faire évoluer ta façon de voyager en allant moins loin, en prenant moins souvent l'avion. T'es pas le premier à dire ça. Yann Arthus-Bertrand, par exemple, a dit qu'il ne prendrait plus jamais l'avion. Est-ce qu'il tiendra? On le verra dans le temps. Mais c'est pour toi aussi une force de ton engagement que peut-être voyager moins ou voyager... moins polluant.
Ça fait une dizaine d'années que j'en parle. À l'époque, les magazines m'envoyaient un peu partout. Et là, je me dis que c'est plus d'actualité, quoi. Et passer d'un avion à l'autre en se disant « c'est pour montrer la beauté du monde », je pense que c'est pas suffisant. Enfin, moi, ça me convient plus. Et puis je suis quand même un peu suivi, encore une fois, je suis dans une niche, la photo animalière, mais j'ai pas envie que les gens qui aiment mon travail aient qu'une envie, c'est de faire la même chose et d'accumuler tout ça, tous ces voyages. Et ça, c'est des fois, c'est un peu le paradoxe de mon métier, d'ouvrir des brèches, les loups arctiques, la panthère des neiges, les bœufs musqués en Norvège. Et on y développe un écotourisme qui est plus ou moins noble. Donc là, moi, je suis face à un questionnement. Et je me dis qu'il va falloir en faire, en tout cas, moins avec plus de sens. Moi, je voyage à peu près une fois. Je prends l'avion une fois par an. Là, cette année, je ne vais pas le prendre. J'ai rarement eu autant les moyens de voyager et de continuer à traîner mes objectifs partout dans le monde. Et là, je ne le fais pas parce que je culpabilise. Et je crois que c'est juste. Je tente d'être assez cohérent et d'avoir un peu de sens dans ce que je fais. Donc oui, pour répondre à ta question.
C'est dur ?
Oui, c'est dur un petit peu, mais en même temps, c'est dur parce que quand tu débutes ce métier, la nature, elle a quelque chose qui est inépuisable, si tu veux. Tu sais que très bien que tu vas vivre 40-50 ans à battre la campagne dans le monde partout et tu vas te régaler, quoi. Là, c'est plus le cas parce que si je continue de faire ça, j'aurais l'impression d'être un gros égoïste en disant il faut montrer la beauté, ça va changer les choses. c'est un peu trop facile, c'est pas suffisant. Et je crois qu'il faut, maintenant montrer la beauté, évidemment, mais il faut aussi amener une démarche derrière. C'est pas juste payer pour consommer, parce que c'est ça qui m'inquiète dans cette photographie animalière, c'est que on est aussi victime d'un consumérisme et il y a énormément, on passe d'un avion à l'autre, quoi, on en voit. Et ça me plaît pas, ce côté tableau de chasse, d'accumulation, je crois que là on est passé à autre chose. Vraiment. Je pense qu'en France, on se rend pas compte, mais on a aussi on se rend compte un peu, mais on a une biodiversité qui se réduit énormément. Et j'ai l'impression que moi aussi, si je fais quelque chose de plus proche, ça va peut-être aboutir à des choses concrètes derrière, sur certaines réserves, sur certaines protections de tel espace, tout près de chez moi. Et aller sauver les éléphants en Afrique, est-ce que c'est à nous de le faire? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas sûr du résultat. Là, oui, là, j'ai l'impression que sauver les derniers lambeaux de vieilles forêts qui recèlent des espèces qui sont indispensables, mais qui sont juste géniales au niveau des mousses, au niveau des insectes, au niveau des piques, des petites chouettes, au niveau des grands tétras, c'est fabuleux. Donc là, j'ai l'impression que localement, je pourrais avoir un peu de poids.
J'ai une dernière question, Vincent, à te poser. C'est plus aux militants que je m'adresse. Quel est ton point de vue sur la réintroduction des ours dans les Pyrénées?
Alors moi, j'ai jamais été vraiment pour des réintroductions parce que c'est déjà synonyme d'un certain échec, c'est-à-dire qu'on a l'espèce a disparu. Mais il s'avère qu'il y a quand même des endroits où ça a été assez bénéfique, comme les vautours en France qui ont été réalisés par les frères Terrasse, entre autres, pour le castor également, les ours. Je pense que c'est bien, mais je vois ce qui se passe aussi avec les lynx ici dans les Vosges, le Jura. Il faut qu'on protège absolument nos habitats. Il faut qu'on éduque les gens avant de tout de suite réintroduire, en tout cas. On ne peut pas réintroduire des espèces si elles n'ont plus de milieu ou si elles vont se faire dézinguer très vite, quoi. Et je crois que là, on a un gros travail à faire au niveau des habitats, au niveau de retrouver un équilibre écologique de notre environnement et puis de la pédagogie d'environnement. Moi, ce qui m'affecte terriblement, c'est la méconnaissance qu'on a de la nature, en quelque sorte. Ça, c'est assez fou, hein. C'est de la nature du côté écologique de toute cette chaîne. Et ça, c'est un peu agaçant.
À vous qui nous écoutez et qui écoutez Vincent Munier, je vous invite vraiment à regarder ces films, à admirer ces photos qui vous permettent d'observer les animaux et on l'a bien compris dans leur environnement. Vincent, merci infiniment pour ce voyage et c'est maintenant à mon tour de réaliser quelques photos sonores, si je peux m'exprimer ainsi, de ton univers que tu nous as si bien décrit et que tu nous as permis de capter à travers tes récits.
Merci, Nani. Ouais.
Merci beaucoup, Vincent. C'était passionnant.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.